cuando el Uruguay se hace oriental. Je réfute totalement cette
histoire.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le 24 juin dernier, le monde a célébré la journée internationale de lutte contre la contrefaçon. C'est l'occasion pour les États et les gouvernements de prendre conscience de ce combat sur les véritables fléaux économiques et sociaux touchant même à la santé et à la sécurité des consommateurs. La RDC possède plusieurs instruments juridiques qui luttent contre ce fléau sous toutes ses formes. Pour preuve, cette mention dans les billets de banque imprimés en République démocratique du Congo, le contrefacteur est puni de servitude pénale. Certains observateurs estiment que la faible application de cette disposition serait à la base de la persistance de cette réalité au Congo. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Sylvain Matindou est à la mise en onde, Pierrot et la Bégie au standard et à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Seboujangé. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Voilà, nous recevons en ligne, il y a un auditeur qui nous a rejoint dans cette émission. Cédric, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Cédric.
Bonjour Gilles et bonjour tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quel est votre avis Cédric?
Merci beaucoup Gilles pour l'intervention que j'ai passée tout à l'heure là. Je pense que la RDC, comme je l'ai dit tantôt dans mon commentaire sur Facebook, a toutes les lois, a presque voté toutes les lois pour éradiquer ces fléaux. Mais le problème pour notre pays, c'est pas les lois, c'est la mise en application de ces lois. Vous l'avez bien dit que dans la monnaie imprimée dans la banque, ici à RDC, il est écrit les contrefacteurs est puni de servitude pénale. Mais vous serez d'accord avec que jusqu'à présent, on n'a jamais vu quelqu'un être puni parce qu'il est présumé, il est poursuivi de contrefaçon. Je ne sais pas pourquoi la RDC peut prévaloir continuer à voter de loi sans les mettre en application.
Alors Cédric, est-ce qu'à votre niveau vous avez déjà eu à évaluer les risques cette activité illicite?
Vous dites?
Est-ce que vous avez eu à votre niveau déjà à évaluer les risques de cette activité illégale?
Il y en a autant. Même le refus, il y a certains qui refusent même les billets parce que il est peut-être déchiré quelque part. Vous lui donnez refuse. Mais lorsque vous vous plaignez, est-ce qu'il y aura la suite? Et quelqu'un qui prend même dans la monnaie, il écrit son nom, il met son nom, et vous vous plaignez, est-ce qu'on va le poursuivre? Est-ce que la justice va le poursuivre? Non. Parce que la RDC ne sait pas mettre en application les lois qui sont votées.
Merci beaucoup Cédric. Quand on parle de la contrefaçon, de manière un peu générale, il y a également des produits contrefaits. Il y a aussi la monnaie qui est aussi victime de ce genre d'activité illégale. Pour aller encore plus loin, pratiquement dans plusieurs domaines, on se rend compte que même la propriété industrielle a souvent été l'objet de cette contrefaçon. Alors dans plusieurs cas, nous l'avons dit, cela a exactement des conséquences sur le plan disons économique, sur le plan social, et touchant même à la santé et à la sécurité des consommateurs. Alors que faudrait-il faire aujourd'hui pour arriver à réduire les risques qu'encourt la population par rapport à cette activité illégale? Vous l'avez dit, Cédric, tout à l'heure, que la RDC a toutes les lois pour lutter contre ces fléaux. Alors, pour notre pays, les problèmes ne se posent pas au niveau des textes, mais c'est plutôt son application. Est-ce que Sylvain a la même lecture? Sylvain, vous êtes avec nous à Bounia. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Gér. Je voudrais saluer tous les Congolais. Disons d'abord que le domaine de la contrefaction est vaste. Je voudrais plus m'appesantir sur la contrefaction liée au circuit monétaire et financier, puisque je considère que à ce niveau-là, il y a beaucoup d'impacts négatifs, c'est-à-dire que beaucoup de conséquences sur la vie du système monétaire et financier, puisque j'insiste là-dessus. Alors, normalement, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on appelle contrefaction? Vous l'avez bien dit, même sur notre monnaie, on a écrit que le contrefacteur est puni d'une servitude pénale. Et donc, la contrefaction comme acte qui se caractérise par la perversion de la vraie identité d'un objet, et ici dans mon cas, d'une monnaie, est tout simplement un acte de nature à priver une institution de sa capacité de gouvernance. Ça veut dire quoi? À ce qui concerne les francs congolais, lorsqu'on peut parler de contrefaction, ça veut dire qu'il y a un groupe de gens qui agissent sur leur propre vouloir, ça veut dire sur leur propre volonté, mais tout en nuisant, hein, tout en rendant un service malsain au système de fonctionnement émis par la Banque centrale, qui est l'institution principale et je dirais même l'institution garante du bon fonctionnement du système financier monétaire congolais. Alors, voyez-vous ce qu'un auditeur a dit, le premier que je salue d'ailleurs. Il dit qu'au Congo, il y a toutes les lois possibles. Et moi, je me rallie à cette idée-là. Mais est-ce que ces lois sont respectées? J'ai toujours dit, en matière de la contrefaction, surtout monétaire, il est question de l'autorité monétaire qui est la Banque centrale, de pouvoir se rassurer sur le système qu'il a mis en place. Ça veut dire les banques commerciales, le système de forex, ça veut dire le système d'échange. Est-ce que ces systèmes-là sont en parfaite harmonie avec elles-mêmes, ça veut dire avec la Banque centrale? Ce qui ne se vérifie pas chez nous, puisque lorsque vous regardez l'utilisation d'autres monnaies sur l'espace national congolais, et donc on est en difficulté de savoir quelle est la masse, ou soit quelle est la circulation volumique de la masse monétaire, ça veut dire des francs congolais. C'est compliqué. Et alors, on ne sait pas exactement, puisque aussi, rendez-vous compte que les contrefacteurs, ils ont tellement amélioré leur façon d'agir, à telle enseigne que, des fois même, entre la monnaie qui a été piratée et celle qui a été émise par la banque, on ne voit pas une différence. Et alors, l'élément essentiel qui pourrait permettre à ce que l'on sache combattre cette contrefaction, puisque nous parlons de la journée de lutte contre la contrefaction, des fois ça devient compliqué. Et alors moi je dis, est-ce que dans notre pays, chaque soir, si c'est peut-être à 20h à 21h, où la Banque centrale arrête les opérations de la journée, est-ce que l'on sait savoir le volume de la masse monétaire en circulation correspond par rapport à la prévision émise par la Banque centrale? Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question, même si nous avons des lois, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, allez-y comprendre que la contrefaction ne joue pas seulement négativement sur le système bancaire et financier installé dans des pays, mais maintenant, ça va fragiliser par le pouvoir d'achat d'une monnaie. Comment? Puisque lorsque il y a une quantité produit de biens et services à consommer dans une économie, cela doit correspondre avec les volumes, ou soit la masse monétaire émise par la Banque centrale pour la faire. Mais lorsqu'il y a contrefaction, il y a augmentation volumique de la masse monétaire sur le marché, et bien, maintenant, à ce niveau-là, il y a inadéquation entre les volumes des biens et des services produits et les volumes de la masse monétaire, et ça impacte maintenant sur la vie des citoyens. C'est là où je dis que l'affaire est très dangereuse. Puisque, regardez aujourd'hui, dans quelques mois, de 900 francs, nous sommes aujourd'hui presque à 1000 francs de cours de change. Je ne sais pas s'il faut parler de taux de change, puisque je me rends compte que maintenant, tellement que le cours est flottant, on ne sait même pas maîtriser, demain on peut arriver à 2000. Et donc, allez-y comprendre cette conséquence-là. Et ici, je vais demander quoi? Je demande deux choses. Au niveau de la Banque centrale, nous devons renforcer le système bancaire, le système des fonctionnements de nos banques. Ça veut dire la banque centrale, avec ses succursales dans toutes les provinces du pays, avec les entreprises bancaires commerciales, pour qu'on arrive à mettre une bonne combinaison, ça veut dire des activités de nature à contrôler la circulation de la masse monétaire. Ça, c'est des aides. Des deux, nous devons être rassurés du fait que est-ce que la production que nous avons correspond aux besoins de la circulation monétaire. Puisque si on n'arrive pas là-bas, nous sommes en train de mettre nos familles en danger. Aujourd'hui, le commerce des mortels ne comprend pas pourquoi le coût de vie est très cher. Voilà ce que je pense par rapport à ça.
Merci.
Et je pense que si l'État international, les institutions monétaires internationales telles que la FMI, la Banque mondiale, doivent aider les institutions bancaires des pays indépendants à faire fonctionner correctement les systèmes financiers, sinon le peuple du monde va souffrir.
Merci beaucoup Sylvain, vous avez abordé l'aspect contrefaçon dans les domaines financiers. Vous avez dit que le domaine de la contrefaçon date de plus longtemps possible et vous vous êtes apesanti dans ce domaine en disant que la contrefaçon c'est l'acte qui se caractérise par la perversion de la vraie identité d'un objet. Ça peut être la monnaie, ça peut être un produit pharmaceutique ou encore une autre propriété, un autre produit industriel pouvant aider la population à la consommation. Mais alors pour vous, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver à lutter efficacement contre ce fléau, il faudrait tenir compte de ces deux choses, notamment au niveau de la banque centrale, renforcer le système de fonctionnement de nos banques et imprimer une bonne politique de contrôle des activités capable de pouvoir contrôler le volume monétaire qui doit forcément correspondre à la prévision monétaire. Merci beaucoup Sylvain. Maître Adrien, vous êtes juriste, bonjour, vous êtes à Kananga.
Oui, bonjour Gilles Lungembo, bonjour à tous les amis.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact qu'a cette activité dans le domaine juridique?
Merci beaucoup Gilles de l'opportunité que vous m'offrez. Je commence d'abord à apporter un petit rectificatif par rapport à nos deux amis, donc Sylvain et aussi Cédric. Il faut dire que certes, la loi existe en cette matière, sur l'article 127 du Code pénal congolais livre 2, qui prévoit donc la sanction. Et il faut aussi reconnaître, donc, c'est là que je ne suis pas d'accord avec eux, la loi est là et la loi elle sanctionne peut-être là où eux sont, on ne sanctionne pas, mais moi, ici à Kananga, parce que j'ai déjà à intervenir dans deux ou trois cas, donc de contrefaçon, et le résultat, c'est la sanction pour ceux-là qui méritent, et aussi l'acquittement pour ceux-là qui, donc, dont des éléments constitutifs pesés des fois. Pour revenir maintenant, donc, au sujet, il faut reconnaître que la contrefaçon a pris une allure vertigineuse donc, sur toute l'étendue de la RDC, et particulièrement dans la province du Kasaï central. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a aussi certains gens évalués à une vingtaine qui sont dans la prison centrale de Kananga, qui attendent vraiment leur condamnation, bien leur acquittement. De ce côté-là, nous saluons le travail abattu par nos amis des renseignements, parce que au vu de la lire qui prenait cette situation, ils s'étaient aussi investis pour essayer un peu de vérifier donc de près, avoir des informations auprès de la population pour voir ce qui n'allait pas et pour dénoncer aussi les contrefacteurs. Et c'est ce qui a fait à ce que nos amis là puissent mettre la main sur eux. Le premier impact négatif, c'est que je vais le prendre compte que nos amis là, lorsque je les côtoie, lorsque je les assiste, ils me disent souvent qu'ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent en connivence ou en concours avec certaines autres personnalités. Et c'est là que nous, très souvent même devant les juges, nous prions toujours à cette injustice, parce que cette infraction ne sanctionne pas seulement le contrefacteur, mais on sanctionne aussi celui qui aide, celui qui met l'argent à la disposition de ces contrefacteurs-là pour multiplier, pour faire ce sale besoin. Mais très souvent, nos juridictions mettent de côté ces hautes personnalités pour se rabattre sur le paisible citoyen, donc ceux-là qui ne pèsent pas. C'est comme ça, nous nous disons qu'avec cette allure, c'est difficile pour qu'on puisse éradiquer la contrefaçon. C'est vrai que la sanction est là, mais elle n'est pas appliquée équitablement. Là, c'est donc la première conséquence. Donc, la première conséquence, c'est le premier impact. Deuxièmement, l'impact se mettra sur le plan social. On se rend compte que la contrefaçon, en d'autres termes, selon donc le code pénal, c'est une tricherie, une imitation, mais dans le mauvais sens. Lorsqu'on veut donc faire croire à une personne que ce billet est correct, est valable, et pourtant il ne l'est pas. C'est dans ce sens-là. Maintenant, sur le plan social, vous allez vous rendre compte que ça provoque aussi une certaine inflation. Parce que lorsque ces gens-là ont ce billet-là, ce sont des billets qui sont bloqués. Lorsque la justice met la main sur ça, la justice ne saura pas libérer ces personnes et aussi retourner cet argent-là auprès de la population. Troisièmement, ça crée une certaine crise dans la population. Parce que la population ne sait pas du tout se rendre compte de quel est le vrai billet et quel est le faux billet. À partir du moment où la population n'est pas du tout instruite sur la bonne qualité des billets. C'est comme Sylvain l'a dit, ce sont des gens qui sont devenus vraiment professionnels. Lorsqu'ils font ces histoires-là, vous n'avez pas, sauf vraiment si vous êtes aussi un expert, pour découvrir que non, ce billet, il est faux, celui-ci, c'est vrai. Mm-hmm. C'est là que la population maintenant se trouve devant un dilemme pour voir comment est-ce qu'il faut vraiment déchiffrer et découvrir ça. C'est comme ça la solution JR. J'ai toujours dit plaidoirie, même devant les cours des tribunaux. Moi, que tant que le magistrat, tant que le juge n'auront pas à réunir leur courage pour attaquer le mal par leur racine. Leur racine, c'est-à-dire quoi? C'est chercher ceux-là qui mettent donc de l'argent à la disposition de ces paisibles citoyens. Lorsque vous arrivez en prison, d'entrée de jeu, vous dites que cette personne vraiment ne peut pas avoir le moyen de réunir 20 ou 50 000 dollars pour qu'il puisse donc passer à la contrefaçon. Mais lorsque vous demandez, la personne vous dit que non, moi j'étais chez moi et c'était l'autorité qui m'a appelé et c'est pour ça que je me suis rendu compte. Maintenant, l'autorité qui se constitue partie civile, ils vont toujours avec un discours. C'est quoi? Oh, c'est l'escroquerie. Comment escroquer par cet enfant? Lorsqu'on on examine l'escroquerie, vous voyez qu'aucun élément n'est réuni de l'escroquerie. On chute sur la contrefaçon. On condamne celui qui avait reçu les coups de fil, mais on ne condamne pas celui qui a fait appel à celui-là. C'est comme ça que nous disons que tant qu'on ne cherchera pas à déraciner ce mal-là, donc ce sera difficile.
Ça sera difficile. Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous avez évoqué la loi. Disons son article 127 donc du code pénal livre 2 qui en fait sanctionne cette activité et vous avez insisté pour qu'on puisse quand même reconnaître que la contrefaçon a pris quand même des allures très inquiétantes à RDC et plus particulièrement à Kananga où vous avez évoqué des cas d'arrestation d'une vingtaine de jeunes pour avoir eu à s'adonner à cette activité. Alors pour des solutions vous avez plutôt fait ce plaidoyer auprès de magistrats pour qu'ils prennent leur courage pour dénoncer en fait l'implication des uns et des autres pour donner de la valeur à cette activité. Prof Ilias, vous êtes à Colésie. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais d'abord dire que l'imitation, c'est comme la défenseur l'a dit, il faut parler, comprendre d'une manière simple. Il s'agit d'une imitation frauduleuse. Disons aussi que sur le plan mondial, cela est devenu un phénomène assez récurrent qui permet aux uns de gagner de l'argent avec la complicité des officiels et cela appauvrit la masse parce qu'il n'y a que les quelques personnes qui s'occupent de cette pratique qui gagnent de l'argent et en créant de faux billets qui circulent et qui gagnent alors que lorsque les officiels découvrent qu'il y a duplication, il y a fraude, est déjà en retard pendant que les fraudeurs se sont déjà enrichis. Alors, il y a aussi un aspect, il faut situer cela dans le cadre du civisme monétaire. C'est-à-dire que, ici chez nous, vous allez constater, il y a un fait. C'est que on ne fait pas très attention à notre monnaie. Beaucoup de Congolais sont très attentifs au dollar. Ils savent bien le vérifier, ils savent découvrir le vrai du faux. Mais quant à notre monnaie nationale, ça pose trop de problèmes. J'ai situé ce problème comme cause au niveau d'abord de la sensibilisation aux institutions monétaires ainsi qu'au gouvernement pour informer la population sur les faits même des délits qui sont sanctionnés autour de l'usage de notre monnaie. Et en parlant ici de cette imitation frauduleuse dont il est question maintenant, il faut comprendre que la pauvreté touche les gens de manière très courante, parfois à certaines pratiques. Non seulement l'imitation ou la multiplication de la monnaie, vous allez voir que les gens essaient de bricoler. Ils n'ont pas d'argent, il y a des pieds qui traînent dans des maisons, ce sont des cas que nous connaissons. Quelqu'un va bricoler les lettres alphabétiques avec une paire de ciseaux, du papier collant, tout cela, pour se créer quand même un billet vraisemblable. Alors, ou alors, il va coûter deux billets différents pour attacher l'un à l'autre avec du papier collant et faire circuler de la fausse monnaie. Et donc, tout cela, c'est au niveau d'abord de la banque pour dire aux gens, tiens, comment il faut se comporter, quelle attitude afficher par rapport au billet.
Oui, professeur Ignace. Oui, professeur Ignace. Oui. Est-ce que vous avez la même lecture comme la raisonnée votre prédécesseur, M. Sylvain de Bounia, qui en fait liait un peu un tout petit peu la situation que traverse actuellement notre économie à ces genres de pratiques. Donc, pour dire que les volumes, en fait, le gouvernement n'a pas pu contrôler les volumes monétaires par rapport à la prévision monétaire, si je dois répondre ces propres mots, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le taux d'échange qui est très élevé aujourd'hui et la dépréciation de notre monnaie, ça peut entre autres être lié à cette situation également, à cette activité?
Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un contrôle sérieux au niveau de l'État et des banques quant à la circulation le volume de masse monétaire en circulation, ce qui fait que il y a parfois des circuits parallèles qui sortent des billets qui vont circuler, qui vont gonfler les volumes de masse monétaire et avec toutes les conséquences que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je pense que il faudrait une sorte de sensibilisation au niveau de l'institution financière et de l'État pour informer la population sur l'attitude à afficher, comment détecter la fausse monnaie et comment se comporter lorsque les billets ne sont pas bons. J'ai connu l'exemple des billets de 5 000 et des billets de 20 000 qui ont circulé et à un certain moment, je me rappelle moi-même, j'ai eu du mal à échanger, à avoir des petites coupures d'un billet de 20 000 parce que je suis parti des colonies à Lubumbashi. On a refusé carrément mon billet de 20 000, disant que c'est un billet qui n'avait pas cours légal, voyez, autant de pratiques. Je propose enfin qu'il y ait en quelque sorte une espèce de police spéciale de contrôle de monnaie dans notre pays et que les institutions judiciaires créent une chambre particulière de contrôle et enfin la sensibilisation de la population sur la question qui se pose avec acuité.
Merci beaucoup, professeur Ignace, pour vous, ceux qui s'adonnent à cette activité. C'est exactement pour se mettre à l'abri du manque ou encore la pauvreté qui caractérise leur vie et pour chercher des solutions, ils passent par cette activité illégale. Mais la solution pour vous, il faut vraiment renforcer la sensibilisation de la population sur le civisme monétaire et vous en appelez donc à l'implication des institutions financières, notamment la Banque centrale et le gouvernement congolais pour y arriver. Merci beaucoup, professeur Ignace, d'avoir appelé de Colosie. Simon, vous êtes à Lodja, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, M. Guillaume Bienbouri. Juste, je vais ajouter une idée par rapport aux contrefacteurs. Je pense que la RDC a beaucoup de documents juridiques, mais, peu importe ces documents, il n'arrive pas vraiment à mettre à pratique ce qu'il a écrit dans ces documents. Vous voyez, par exemple, il y a des contrefacteurs qui fabriquent d'argent, souvent les appels souvent des frappeurs, mais tantôt vous le trouverez qu'après avoir été arrêté, à un moment vous le trouverez, ils sont peut-être toujours de circuler dans la rue. Et deuxièmement, vous trouverez toujours Par exemple, le dollar. Si par exemple vous avez un billet de dollar qui est bien déchiré, c'est rare qu'on puisse le changer. Mais nos francs congolais est en train de circuler, dégradé, déchiré, donc voler toujours. Alors ce billet, vraiment, je te dis mettre un peu sur ça.
Merci beaucoup Simon. Voilà, on comprend que pour vous, vous révélez, comme l'ont dit certains de vos prédécesseurs, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ou encore de citoyens qui s'adonnent à une telle activité sont appuyés par certaines autorités, voire qui sont dans cette affaire. Et Maître Adrien, qui a ressorti donc les aspects juridiques, a fait même un plaidoyer pour demander à ce que le magistrat puisse renforcer un peu le système de contrôle pour arriver à sanctionner réellement ceux qui s'adonnent à une telle activité qui est condamnée par le code pénal de la République, livre 2, dans son article 127. Moïse, vous êtes à Bounia, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, cher invité. Bonjour, monsieur Vialiste. Je suis réellement à Bounia. Je veux également dire quelque chose par rapport au sujet du jour. Les prédécesseurs ont pu avancer quelques aspects de mon intervention. Et moi, je voudrais dire ceci. Ce qui est regrettable, c'est que cette activité, donc, la contrefaçon, une activité qui se passe aussi, au vu aussi de certaines autorités. Qui sont censés réprimander ces gens de méconduite. Pourquoi je dis ça? Comme l'autre vient de le dire, on voit ces gens être arrêtés, et tout de suite après, il faut relâcher. Alors, c'est là, il serait dur qu'ils seraient donc complices, ces autorités qui sont censées être complices de ces gens d'activité. Alors que dès qu'elles sont complices, je ne pense pas si ces gens de choses pourraient être finis avec la jour. Alors, moi, je voudrais plutôt parler de certains facteurs. Qui favoriserait ces gens de méconduite. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est la non-maîtrise des produits par les consommateurs. Comment que je veux dire ça? Je parle précisément de la contrefaçon monétaire. Est-ce que vous m'écartez, mes journalistes? Dès lors que les consommateurs que nous sommes, nous qui utilisons ces monnaies, nous qui faisons véhiculer ces monnaies, nous n'avons pas une maîtrise sur la monnaie. Il est facile à ces gens de pouvoir nous manipuler et de pouvoir indiquer des fausses monnaies sur les marchés. Par exemple, aujourd'hui, par hasard, dans la rue, vous rencontrez avec quelqu'un, vous lui posez une question un peu, c'est banal. Si, par exemple, la monnaie est 8 francs, quels sont les effigies? Quels sont les signes? Quels sont les symboles qui se décident de monnaie? Vous serez d'accord avec moi que la personne aura du mal à vous répondre avec précision. Donc, dès lors que les gens ne maîtrisent pas la monnaie, ils n'ont pas des connaissances suffisantes sur les monnaies qui sont sorties, sur les billets qui sont sorties, des indications, sur des images, sur les identités des monnaies, c'est très difficile que les gens maîtrisent. Alors, la contrefaçon va toujours vivre. La deuxième chose, au niveau de la banque, par exemple, il y a les non-respect des préalables. Donc, les préalables qui devront concourir donc, à l'injection des monnaies sur les marchés. Comme l'autre, il a dit, il y a un des producteurs qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait d'abord des facilitations, que les joueurs soient informés, que les joueurs soient enseigner si la monnaie qu'on va injecter. Ils en aient vraiment la connaissance. Alors, Terra va leur permettre de détecter ces monnaies et de savoir distinguer la vraie et la fausse monnaie. Mm-hmm. En fait, ce qui est aussi regrettable, c'est que je constate, ce sont plutôt les utilisateurs. Ceux-là qui sont surpris par ces monnaies, qui sont plutôt tâchonnés, pourraient de savoir chercher qui les ont injectés sur les marchés. Vous comprenez? On attrape maintenant quelqu'un en train de faire des choses, on l'arrête. On essaie juste de l'interroger, il est contre des pays des amendes forfaitaires, ou encore il est contre des frais de prison, à des faveurs de vrais acteurs, de ces gens-là qui ont laissé monter sur les marches.
Voilà. Merci beaucoup Moïse. Vous avez beaucoup plus insisté sur la non maîtrise de l'objet ou de la chose qu'on consomme. Et dès lors que le consommateur, lui, ne sait pas faire la différence, hein, surtout le consommateur de la monnaie, ne sait pas faire la différence entre les effigies ou les signes distinctifs de cette monnaie, de notre monnaie nationale. Alors c'est difficile qu'il puisse lutter vraiment contre ces fléaux. Et ça sera pas facile non plus de pouvoir, au fait, accompagner le gouvernement dans cette lutte contre la contrefaçon qui commence à prendre un peu des allures inquiétantes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Célestin d'avoir appelé Moïse d'avoir appelé de Bounia. Célestin, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Oui,
Bonjour, Gérard. Bonjour, Radio Okapi.
Quel est votre avis, sénateur? Vous avez suivi Moïse qui a beaucoup plus parlé de la non-maîtrise de l'objet ou de la chose que les consommateurs utilisent, qui rejoint pratiquement l'idée du professeur Ignace de Colésie qui parlait tout à l'heure, qui demandait, en fait, qui plaidait pour le renforcement de cette sensibilisation qui tournera autour du civisme monétaire, par exemple. Et Simon est revenu également sur ça.
Monsieur Gilles, le problème que nous avons ici au Congo, c'est un problème de justice, monsieur le président de GR. Comment voulez-vous qu'ici en Boujouma, où nous sommes, est une coupure de 20 francs avec une moindre mesure? Ça devient votre propre billet. Vous allez même à la banque, on ne va pas vous acheter ça. Ça devient votre billet. Mais moi, je vais beaucoup insister sur le whisky pour le whisky qu'on a amené ici, je ne sais pas les Indiens ou pas les Libanais, que vous fabriquez ça dans les maisons. Les whisky là, qui ne sont pas les vrais whisky, font le whisky vendu à 10 prix, à 1000 francs. Et vous trouvez les jeunes garçons de moins de 20 ans, surtout à la fin de l'examen de taille, tous les jeunes étaient ivres de ces boissons là, qui ne sont pas des boissons pour la santé. Et personne n'en parle, personne ne les tout ce qu'on va prendre en vie pour la vie de tout le monde, et personne n'en parle. Et c'est pour cela qu'il nous crie gravement à la santé de les gens. Il n'y a même pas des émissions éducatives sur les chaînes de radio pour faire montrer aux gens que ces boissons-là sont utiles à la santé.
Voilà, donc vous souhaiterez, comme vos prédécesseurs, notamment le professeur Ignace de Colésie et aussi Sylvain Debounia, qui ont insisté beaucoup plus sur la sensibilisation de la population pour, en fait, que cette dernière puisse être capable de distinguer le vrai du faux, afin de lutter efficacement contre la contrefaçon. Merci beaucoup, Célestin de Mboujimaï. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour GR, et je salue également à tous les complets qui sont en train de nous suivre pendant ce moment.
Voilà, je vous demanderai Pacifique de garder. Oui, Pacifique, garder la ligne, mort avec Ange qui est à Bandundouville. Le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent participer également à cette émission en composant les 081-890-63-15 pour les interventions directes.
Cette histoire vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Soyi, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger et les nations sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans toute l'histoire. Parole aux auditeurs.
Voilà, nous retrouvons Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. Pacifique, vous avez la parole.
Oui, je disais bonjour à tous les Congolais qui sont en ligne et en train de nous suivre pendant ce moment. Je voudrais donner deux secteurs dans mon intervention et puis donner une piste de solution. Alors, il y a Maître qui venait d'appeler à partir de Kananga qui avait dit qu'il y avait une loi 127, code pénal et tout ça, livre 2. C'est très bien, c'est une très bonne chose, Gér. Qui est-ce qu'on arrête? On arrête des petits messieurs qui ont fait ceci ou cela, pour des faits bénins, hein, qu'on arrête. Mais des gros poissons, hein, qui donnent des stratégies, qui montent tout cela. Mais ils ne sont pas arrêtés. Les portes des prisons pour ces gros poissons-là ne sont pas ouvertes. Alors, on essaie que d'arrêter tout simplement des petits poissons-là. Mais nous disons tout simplement que c'est une question de justice. Si la justice se fait sentir, hein, et se montre vraiment une véritable justice, on frappe tous ces gens-là à la même proportionnellement à leur faute, je crois que ça pourra diminuer. Regardez pendant des périodes de crise, de manière générale, c'est à ce moment-là qu'on injecte plus de billets des banques et qui crée finalement des problèmes dans la population. Ignace Ndala qui avait dit non, c'est une question également de sensibilisation. Oui, c'est vrai. C'est à des pareils moments de crise où les gens chercheront, parce que quand les billets des banques commencent à être cherchés, tout ça, les contrefacteurs commencent aussi à réfléchir comment y injecter. Et c'est le moment où l'on doit commencer et à faire des sensibilisations, dire à la population, vous devez faire très attention, voilà ceci ou cela. Je voudrais proposer tout de suite là quelque chose. J'étais au Burundi. Je vous assure que j'ai dû passer la nuit sans manger. Pourquoi? Parce que moi j'avais les billets de dollars. On me dit, va échanger ça. Je pensais que c'était comme chez nous où je pouvais tomber sur un cambiste. Il n'y en avait pas. Il y avait des cambistes regroupés dans des coopératives et ils étaient reconnus avec des numéros d'agrément et ils avaient leur propre maison où vous allez là-bas. Et vous le trouvez et vous changez votre argent. Même s'il y a des billets qui posent problème, on vous donne même les documents d'échange. En ce moment-là, vous pouvez aller réclamer tout ça. Voilà encore un autre moyen de pouvoir contrôler notre monnaie. Mais ici chez nous, les cambistes, ils sont partout le long des
Pacifique. Il y a quelques années, je crois que le ministère de l'économie et également le ministère des finances, parce que c'est quand même une question transversale, avait lancé une opération assainissement de secteur. On avait pris la décision, en fait, de demander à tous les cambistes de pouvoir se regrouper, en tout cas ceux qui n'ont pas de moyens de se regrouper pour, en fait, faire cette activité, bien entendu, en ayant des documents légaux leur permettant d'exercer dans le secteur. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons remarqué les mêmes cambistes longent encore les rues et continuent à influer sur les marchés d'échange. Donc c'est pratiquement, comme vous l'avez dit, vous avez donné un exemple de Burundi où vous avez eu à passer une nuit sans manger parce que vous avez passé des heures et des heures à pouvoir chercher là où il y avait des cambistes. Dommage pour vous, vous ne l'avez pas trouvé.
Oui, oui, justement, c'est de cette manière-là que nous devons aussi contrôler notre monnaie. Je prends le deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est-à-dire, vous-même, vous connaissez encore plus que moi, à Kinshasa, on a vendu des produits pharmaceutiques avec les mêmes noms, mais à l'intérieur de ces produits pharmaceutiques, il n'y en avait pas ces mêmes produits-là. On vous dit, ici, c'est la chimie, mais ce n'est pas la chimie. Mais tous ces gens-là, ce sont des étrangers, ce ne sont pas des nationaux. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces gens-là, GR? Vous voyez, la contrefaçon, ce n'est pas tout simplement un problème d'argent. Même dans les produits, nous avons vécu tout ça, des produits pharmaceutiques. On vous dit que ça, c'est de l'ampicilline. Mais quand on ouvre comme ça, il n'y a pas d'ampicilline. Mais ça fait aussi tuer la population. Ça fait tuer la population. Et là, les services de l'OCC. Fait quoi? N'a pas d'expertise ou comment? S'il n'y a pas des machines, s'il n'y a pas d'experts, c'est le moment d'en former. Il faut former les gens. Il n'y a pas de développement sans formation. Jamais et alors jamais. Raison pour laquelle nous vous disons, tout ça c'est à la recherche d'argent. Et alors, nos responsables, nos dirigeants doivent être conséquents. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que nos parlementaires, nos députés sont en train de faire. Donc ça, ce sont des questions cruciales que l'on doit nécessairement trouver des solutions. On dit non, nous devons trouver des solutions. La loi, ça peut être là.
Est-ce que vous pensez autant on a mis l'accent sur le civisme fiscal si on les fait également pour travailler dans le sens de d'imprimer ou d'inculquer dans l'esprit des Congolais ce civisme monétaire, ça pourrait quand même apporter une solution?
Tout à fait, c'est justement ça la voie, et c'est la voie la plus indiquée. Si on ne fait pas tout cela, donc la population tombera toujours dans des difficultés comme ça. Dites-moi, pour une maman qui il est très, on descend là où la maman est en train de vendre, et on lui achète 200 000, 300 000 de ces faux billets-là. Elle détient quoi, cette femme-là? Elle détient quoi, Gérard?
Merci.
C'est très très important.
Merci beaucoup, Pacifique. Pour vous, c'est une question de justice. Et cette grande crise que nous traversons aujourd'hui avec les taux d'échange n'est pas stable, voilà que les citoyens, les inciviques monétaires pourraient trouver l'occasion pour injecter quand même de faux billets sur les terrains. Vous avez donné les cas de Burundi, le cas que vous avez vécu vous-même, où vous avez trouvé une absence totale des cambistes sur la route, et vous demandez à ce qu'on revienne quand même à cette décision sur l'assainissement du secteur, en demandant à tous ces cambistes de créer des corporations, de se retrouver en groupe pour travailler, de quitter l'informel pour travailler dans les secteurs formels. Merci beaucoup, Pacifique. Ange, vous êtes dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour, Gilles, et bonjour les auditeurs de la radio Capi.
Quel est votre avis, Ange, après avoir suivi les uns les autres?
Oui, merci beaucoup de m'avoir d'abord la parole. Et premièrement, je dirais, la contrefaction, elle n'est pas toujours monétaire, elle est matérielle et aussi projetée du fait que vous verrez ici en République démocratique du Congo, étant comme ressortissant des Kasongo Maniema, là chez nous, il y a toujours des problèmes. La contrefaction, elle est minière du fait que vous trouverez par exemple des gens qui font l'or et vous trouverez, il y aura aussi la production des faux or. C'est-à-dire, au Congo, les gens parlent toujours de la contrefaction monétaire, mais en fait, c'est regrettable du fait que nous regardons, il y a même des gens, des sociétés qui produisent toujours de faux choses, des fois de faux billets, des choses qui ne sont pas du tout normales. Premièrement, je dirais, à ce qui concerne la monnaie, ce sont nos autorités d'ailleurs qui sont le premier responsable de cette contrefaction. Quand vous trouverez une autorité qui a un appareil là-bas, qui a tout le matériel pour produire un faux billet, c'est tout à fait regrettable. Deuxièmement, vous verrez d'autres ONG qui ne se conforment pas à la loi et qui est en train d'exercer sur la terre congolaise, c'est tout à fait regrettable. En fait, je dirais, c'est une chose, premièrement, la loi ou la justice peut prendre sa charge, peut appliquer la loi dont on a conquis pour éradiquer ces fléaux aux conséquences néfastes.
Merci beaucoup, Ange, d'avoir appelé de Bandundu. Jérôme, vous êtes avec nous?
Oui, c'est ça l'initiative.
Vous avez la parole, Jérôme.
Ok, ça va, merci, JR. Je passe pour aujourd'hui, je commence par deux exemples à des conséquences différentes. Vous savez, si vous quittez Congo et vous allez au Rwanda, une fois que vous traversez la barrière au niveau de Goma, la frontière, avant d'entrer au Rwanda, ils ont implanté des maisons pour change. Vous arrivez avec le franc congolais, vous échangez directement avant d'entrer au niveau du Rwanda. Et vous effectuez vos achats, vos opérations. En sortant les restes de francs rwandais qui restent sur vous, vous déposez à la sortie et on vous remet le franc congolais pour traverser chez nous. Ça ne pose pas de problème, ça montre l'organisation à leur niveau dans l'encadrement de leur monnaie nationale. Mm-hmm. Mais prenez la même direction, allez en territoire d'Aru. Moi, personnellement, vous allez à Aru, Oni, Kaondolé, à toute cette région-là. Vous venez avec le franc congolais, à ce moment-là, venez la nuit, vous ne saurez pas même manger parce que la population à soi consomme difficilement la monnaie nationale au profit des chéliques ou d'années. Tout simplement, le problème, le deuxième exemple montre qu'il y a d'abord le problème de la politique nationale, de l'encadrement de la monnaie par le gouvernement. Et la confiance placée par notre gouvernement est moindre par rapport à d'autres monnaies. Maintenant, si on parlait de contrefaction dans la monnaie, vous verrez que nous avons une monnaie nationale, une monnaie qui ne traverse pas la frontière de la République. Vous, peut-être, vous verrez vers côté Angola. Là, ils utilisent le franc CFA et c'est une monnaie régionale. Lorsqu'il y a le problème de contrefaction, il y a une justice un peu internationale qui essaie de voir comment réprimer ça. Mais chez nous, nous avons une monnaie qui n'a pas une expansion géographique et qui ne va pas au-delà de notre République. Et ça fait qu'à cas de contrefaction, la façon de réprimer et de réduire ça dépend du comportement de notre justice. Lorsqu'on a une justice faible, soit une justice partiale, ça fait deux fois de tels cas de réprimer ne donne pas de solution voulue par tout le monde. Alors, prenons un autre exemple. Nous, la fois passée, nous sommes par exemple à Bounia, où aujourd'hui, la banque, la BCDC, il y a une banque à la place qui devait itinérer de billets propres à la consommation. Et la population roule derrière la banque là où devait itinérer l'argent. La population retourne cet argent-là dans la circulation, dans l'économie au niveau de marché, où on passe à quoi communiquer. Voyez, quand vous voyez des billets avec des fumées, tout ça ne prenait pas, sur des billets qui étaient destinés. Tout ceci montre combien de fois il y a un désordre dans la gestion de la monnaie nationale. Il y a même la perte de confiance dans cette monnaie nationale. Alors, quand on essaie de voir dans le secteur des produits contrefaits, ça, chez nous, ne se met pas avec, on écoute au niveau des frontières, tout ceci, mais parlons de ce qui est à l'intérieur. Prenons le cas typique de Bounia. Il se passe la fois parce que je dis à la province de Nord Kivu, il y a quarantaine de vins. Parce que quand vous êtes à Bounia, il y a beaucoup de vins. Vous parlez de vins Rafik, il y avait Kitoko, il y avait Fage, il y avait Limité, il y avait beaucoup de vins. On ne sait même pas quels sont les vins propres à la consommation, est propre, est certifié ou pas. Bon, on se contacte parce que c'est vendu sur le marché, on estime que l'État fait son travail et que les consommateurs sont protégés. Mais à un moment, la fois passée au niveau des ordres, le gouverneur a signé qu'il y a quarantaine de ces vins-là étaient impropres à la consommation, ne devraient pas vendre ça au niveau de Nord Kivu. Mais c'est vrai, on a déversé ça sur la province de l'Ituri, et ça se consomme bel et bien, au moment même, c'est la fête qui c'est la masse, qui dit voilà, on a signé ceci, mais comment on consomme de notre côté? Tout ceci, d'une manière globale, c'est le problème de la gouvernance dans la protection de tout ce qui devrait être comme l'acquis de notre côté, le franc congolais, mal protégé par rapport aux autres, et quand bien qu'il y a la contrefaction, la répression n'est pas significative, parce que des fois, ceux qui sont dans le secteur appartiennent dans un système, parce que de tel à tel idée, on fait comment ça va couler, par la suite il y aura ceci. Il faudrait vraiment que notre gouvernement arrive à se responsabiliser. Vraiment, ce qui concerne le franc congolais, qu'on ait une politique à place, le maison d'échange ne doit pas tourner du jour au lendemain, on le doit organiser, et de tel à tel que quand vous avez le franc congolais, vous allez changer, vous venez effectuer vos achats comme tel. Et interdire au niveau de certaines frontières que la déclaration se passe ici à monnaie étrangère. Ça, nous les vivons, nous qui sommes à la frontière. Mais à l'intérieur, ça ne pose pas trop de problèmes. Il faut que l'État travaille pour le compte de l'État avec les instruments qui appartiennent à notre État et ça va aider tout le monde.
Merci beaucoup, Jérôme. Vous avez évoqué les cas de notre monnaie nationale qui, selon vous, n'est pas très, très, très bien protégée. Et vous en appelez à la gouvernance donc de la protection pour lutter contre ces fléaux autour de la contrefaçon. Merci beaucoup Jérôme d'avoir appelé de Bounia. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour très cher Gilles Longuembo, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que, au niveau, tout le monde a évoqué la question de la justice, que le procureur de la République, qui peut se saisir même d'une simple rumeur, aussitôt observée, aussitôt saisie par rapport à l'avis d'une personne qui a des avoirs très 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 exagérés, dont la source n'est pas connue, mener des enquêtes pour savoir si ce n'est pas une bande de gens qui s'adonnent à la contrefaçon, par exemple.
Merci beaucoup, J.R. L'état de droit se repose aussi par la sanction de ceux qui violent les lois des droits de la société. La contrefaçon, bien qu'elle soit diversifiée, elle est une infraction dans d'autres financiers, littéraires, artistiques et etc. Et lorsque le procureur ou les autres ministères publics, on a les magistrats du parquet des grandes instances, de la cour des hauts, que sais-je, même sur base d'instruction, peut s'auto-saisir. Parce qu'il n'y a pas que les victimes qui saisissent, ils peuvent s'auto-saisir. Donc il y a un problème sérieux. Mais revenons au sujet GIA pour dire que, par rapport à la contrefaçon financière, c'est-à-dire le fait de contrefaire ou de reproduire un billet original sans l'autorisation de la Banque centrale, ou encore de celui qui l'a créé, Maître Adrien l'a dit, il y a des codes pénales qui sont là avec des dispositions. Mais qu'est-ce que les ministères publics? Il y a un problème sérieux. Il y a aussi la loi de 2004 qu'on a pas citée sur le blanchiment des capitaux et le financement des terroristes.
Mmh.
Cette loi exige qu'on mette en place un service d'enquête pour démanteler les réseaux. Et je soutiens l'approche sensibilisatrice de Maître Adrien et des messieurs, le professeur Ignace. J'ai la seule façon d'aider la population à distinguer le vrai et les mauvais billets, c'est d'apprendre le vrai. Aujourd'hui, comment on peut distinguer un vrai journaliste et un mauvais journaliste lorsqu'on sait savoir que celui-ci sait traiter, diffuser et collecter les informations? Le jour où on saura savoir ce que c'est un vrai billet, on pourra facilement démystifier, n'est-ce pas, les faux billets. Deuxième chose, je soutiens encore ceux qui pensent qu'il y a des réseaux mafieux. Ce qui a motivé les parlements à prendre en place la loi de 2004 sur le blanchiment des capitaux, c'était cette seule raison. Il y a des réseaux mafieux qui impliquent même des autorités. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir plus de 80% des mauvais billets dans une ville où la banque est contrôlée? Donc il y a un problème sérieux. Il faut que le service d'enquête impliqué, n'est-ce pas, dans la loi de 2004 puisse être mis en fait avec des experts monétaristes pour voir ce qu'on peut faire. Il y a aussi un problème, Gilles. La contrefaçon ne se limite pas à la contrefaçon financière. Il y a aussi la contrefaçon littéraire et intellectuelle. Il y a des gens qui conçoivent des œuvres de script, tant d'ordre artistique, littéraire ou encore industriel. Mais lorsque ces œuvres sont contrefaites, il n'y a pas une police. Par rapport à la contrefaçon littéraire, moi je pense, Gilles, il y a la loi des 86 qui protège les droits d'auteur. Il y a la loi des 82 qui protège la propriété industrielle. Récemment, on a eu un débat entre un organisateur des concours avec le monsieur Liolo. Et ce monsieur a contrefait sans payer monsieur Liolo ses droits. Et la police a constaté. Par rapport à la propriété littéraire, il y a un problème qui bloque le ministère public. En matière des droits d'auteur, la loi dit on ne peut poursuivre celui qui contrefait si et seulement si il y a une plainte préalable. Cette façon de voir les choses, à mon avis, bloque l'action du ministère public, du magistrat, du parquet, même du policier, qui ne s'est pas arrêté. On a des assistants humains pauvres, on pirate leurs œuvres et personne ne peut poursuivre parce que la loi a dit avant de poursuivre, il faut que la victime puisse porter plainte. Il y a autre chose hier. Il y a le manque des sanctions, nous l'avons dit. On a pu démanteler ça et là des réseaux mafieux qui font la contrefaçon jour et nuit. Mais on ne voit pas des sanctions. Et lorsqu'il n'y a aucune sanction, rien ne peut se faire. Et aussi, il faut sensibiliser les auteurs des œuvres d'esprit. Vous l'avez bien dit au début, il n'y a pas que la contrefaçon financière, il y a aussi la contrefaçon industrielle. Il y a des gens qui reproduisent ce que les autres ont fait. On reproduit les biens des autres. Mais on ne sait pas savoir que j'ai le droit de poursuivre. En matière de protection industrielle et littéraire, si celui qui est victime ne sait pas porter plainte, l'action du ministère public ou du magistrat ou encore des policiers qui est bloquée. Et enfin, parlons de la protection des consommateurs. Il y a des biens qui sont contrefaits, qui sont vendus des produits expirés. Là, c'est des services de l'OCC et du ministère de l'économie. Au sein du ministère de l'économie, il y a un service de contrôle qui doit passer dans chaque magasin, dans chaque maison des finances pour voir est-ce que les produits qui sont à la circulation économique sont réellement à bon état. Et ce service ne fait absolument rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous consommons des produits périmés et la protection des consommateurs n'est rien que d'être mort. Donc, toutes ces questions des sanctions, des sensibilisations, des démantèlements des réseaux, la sensibilisation des vrais billets, je pense aussi du contrôle de ce que nous consommons, on pourra, n'est-ce pas, monter hors de notre mur ces fléaux qui gangrènent, n'est-ce pas, le développement du Congo.
Voilà. Alors, Maître Omar, vous avez quand même eu à citer cette loi sur les blanchiments des capitaux. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire le taux, par exemple, d'application de cette loi depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, 12 ans après?
Voilà, Michel Alliot disait, les droits n'est pas ce qu'ils disent les textes, mais c'est qu'en font les acteurs. D'ailleurs, elle est méconnue de la population. C'est une loi théoriquement bonne. Non, on ne l'a même pas sensibilisée. Cette loi n'existe que de non-JR. Elle n'est pas appliquée. Par exemple, il est institué qu'on puisse mettre en place un service d'enquête où il y aura des criminologues, des monétaristes, des juristes et des psychologues pour démanteler les réseaux mafieux qui contrefont chaque jour la monnaie. Mais ce service n'existe pas encore. Il a encore établi qu'il doit avoir des moyens à ce service qui existe pour faire cela. Il n'y a même jamais dans les débats budgétaires pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors que cette loi a été votée pour sauver la contrefaçon qui asphyxie l'économie. Cette loi, JIA, n'existe que de nom. Elle est lettre morte et un sac de jeu.
Alors, il y a un auditeur qui a évoqué tout à l'heure la monnaie nationale. Notre monnaie n'est pas du tout protégé comme le CFA par exemple qui est une monnaie régionale et maintenant une monnaie internationale si on peut le dire ainsi. Bon, est-ce que ça peut vraiment être une raison?
Je ne pense pas dire. Non, je ne pense pas. Notre monnaie est bel et bien protégée. Nous l'avons dit la fois dernière par rapport à l'émission sur l'échange. La seule façon de protéger la monnaie, c'est de savoir maîtriser un taux qui puisse être réaliste. J'ai parlé la fois passée du nominalisme monétaire. On doit avoir un service qui puisse, n'est-ce pas, vérifier les taux d'échange et vérifier. C'est pas les problèmes de monnaie qui doit être réglé ou quoi. Les problèmes, c'est de savoir sensibiliser la population, lui dire quel est le vrai billet, quel est le mauvais billet. Et ceux qui sont appelés à sanctionner JR, dès qu'on découvre ceux qui contrefont, il faut qu'on apprenne à les sanctionner. Voilà les deux vraies solutions au lieu de s'atteler sur la régionalisation de la monnaie.
Merci beaucoup, Omar. Pour vous, donc, la solution passe par deux pistes, la sanction et la sensibilisation. Merci beaucoup. Clément, vous êtes à Matadi, gardez la ligne à Ismaël. Et également, vous êtes à Lubumbashi, 081 890 63 15 pour votre intervention en direct, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez. Notez que vous avez également la possibilité de poser vos commentaires sur notre page Facebook et nous signalons également qu'en ce moment, le débat se tient aussi sur notre page Facebook. Le 24 juin dernier, Le Monde a célébré la journée internationale de lutte contre la contrefaçon. C'est l'occasion pour les États et les gouvernements de prendre conscience de ces combats sur les véritables fléaux économiques et sociaux, touchant même à la santé et à la sécurité des consommateurs. Alors la RDC possède de plusieurs instruments juridiques, vous avez suivi tout au long de ce débat, le code pénal livre 2 en son article 127, et également la loi de 2004 sur le blanchiment et la fuite des capitaux, voilà donc au niveau national, voilà, qui lutte contre ces fléaux sous toutes ses formes. Alors pour preuve, cette mention dans des billets de banque imprimés en RDC, le contrefacteur est puni de servitude pénale. Alors, certains observateurs estiment que la faible application de cette disposition serait à la base de la persistance de cette réalité au Congo. Qu'en pensez-vous? Alors, vous avez également vos messages que vous voulez bien déposer sur notre page Facebook et réagir comme Maître Adrien l'a dit, qu'il est question d'abord de renforcer le mécanisme des sanctions par rapport à tous ces réseaux. Pacifique a insisté sur une question de justice et il a donné des exemples au Burundi et ailleurs où les choses sont tellement dans le formel et c'est ce qui évite au maximum donc l'activité de ces gens. Voilà, il y a Ange de Bandoudou, Jérôme qui est intervenu, qui nous a donné d'ailleurs l'exemple de Harou, où il est consommé à il y a une grande consommation de produits, pardon, de monnaie shilling de ougandais. La monnaie nationale n'est pas vraiment très protégé. Voilà donc, il faudrait qu'on arrive tous en conclusion à sensibiliser et à prendre des sanctions par rapport vis-à-vis de ceux qui s'adonnent à ce genre d'activité. 081-890-7315 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous poursuivons avec Parole aux auditeurs, avec vous Clément, vous êtes à Matadi, Ismaël à Lubumbashi. Clément, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur J.R. J'ai une petite préoccupation, sinon essayer un peu d'avancer ce que j'ai comme idée concernant la contrefaçon. La contrefaçon, à mon humble avis, c'est un problème, un fléau qui touche presque tous les domaines. Tout à l'heure, j'ai suivi l'intervention de certains juristes, certains auditeurs, qui parlaient de la contrefaçon de l'argent, des produits pharmaceutiques, habillements, produits cosmétiques, alimentaires, et j'en passe. Vraiment, c'est un problème qui est mondial. Je ne sais pas, au niveau de notre pays, nous savons bien que les services institués à ce fin existent. C'est un problème qu'on puisse rendre ce service efficace et opérationnel. D'ailleurs, ils sont déjà opérationnels, mais il manque seulement l'efficacité. Moi, je pense que c'est un système. Ce service, à mon humble avis, sont vraiment renseignés et ils savent d'où provient la contrefaçon. Mais seulement un regret que les gens promis, bon, permettez-moi le terme, promis à ce service, se sont scotchés auprès de ces expatriés ou auprès de ces compatriotes congolais qui sont loués à la contrefaçon. Donc eux-mêmes aussi s'imbriquent dans le système et c'est ce qui fait que l'autorité de l'État est parfois un peu bafouée on compte sur eux, mais c'est eux qui ne font pas correctement leur travail. Donc, ils se scotchent eux-mêmes dans ce système et ils perçoivent leur quotité, leur part, selon ce qu'ils font. Moi, je pense que le chef de l'État avait nommé un conseiller spécial en matière de corruption, de justice, quelque chose comme ça. C'est un problème qui doit toucher tout Congolais, tout compatriote congolais, surtout commencer par bien surveiller tous ces expatriés qui coopèrent avec les nationaux, parce que tous ces services-là, ils savent, même au niveau des services de contrôle, je prends l'exemple de l'OCC, ils savent, ils ont des laboratoires, ils peuvent analyser tous les produits qui sortent et qui sont vendus dans le marché. Parfois, ils tombent à sa main, on les soudoie et puis ils font passer des choses comme ça. Et dans tout ça, c'est la population qui en souffre. Moi, je pense qu'il est temps que notre pays puisse copier ce qui se fait ailleurs. Ces services-là ailleurs existent et ils sont compétents. Est-ce qu'ils ne peuvent pas chercher à envoyer des experts là-bas pour essayer un peu de voir comment ces services-là sont organisés et pour qu'on puisse adapter ces méthodes pour lutter contre la contrefaçon qui gangrène notre pays. Donc c'est un problème sérieux. Je crois que les autorités hiérarchiques doivent se tenir debout et puis frapper dur du côté de la justice pour essayer un peu de mettre hors de ça, de nuire toutes ces personnes-là qui forment un système et qui continuent à déranger la population congolaise.
Merci beaucoup, Clément. Vous avez également insisté sur la question de la justice, hein, comme l'ont fait vos prédécesseurs, pour qu'on arrive finalement au résultat. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Ismaël.
Bonjour, Jérôme Lungembo, la bonne et bonjour à tout le monde.
Vous avez la parole, Ismaël.
Ok. Selon l'apôtre Paul disait, pourquoi existe-t-il la loi? C'est-à-dire, il a vu qu'il y avait des dérapages et des problèmes et des difficultés. C'est pour cette raison que Dieu devait donner la loi au fils de Dieu. Mais j'espère que quand on a déjà écrit bien sur la monnaie que les contrefacteurs, c'est-à-dire, on avait déjà constaté qu'il y avait un problème. Le problème qui se pose sur ce domaine, c'est les mécanismes de suivi. Il y a aussi le suivi. C'est tout à fait difficile. Je vous donne un exemple typique. Il y a deux semaines, à 20h30 dans mes activités, j'ai vu un monsieur entrer. Il m'a donné un vrai billet de $50. Je lui ai donné le produit. Après, il m'a dit le retour. Quand j'ai essayé de lui donner le retour, il m'a dit, moi, je pensais que tu allais me rétrocéder $40 en devise. Mais je lui ai donné son argent. À sa sortie, à un mètre seulement, il m'a retourné le faux billet. Bon, comme j'avais déjà la conscience que ce monsieur m'avait déjà donné un vrai billet, je ne devais pas contrôler. Et il m'a laissé un faux billet. Dans une minute, il est parti. Je vous donne encore un deuxième exemple. À tous celui qui opère ça, que tu cherches à s'enrichir par la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, donnez pas autant d'argent, nous allons faire des choses, tu vas avoir autant. Ils donnent cet argent. C'est-à-dire, au niveau de la population, nous n'avons pas l'idée de dénoncer tout ce qui se passe. C'est-à-dire, si on collaborait mieux avec les services de sécurité, là, on peut avoir du succès. À force que nous ne collaborons pas avec les services de sécurité, ça ne fait rien faire. Les contrefaçons aujourd'hui, on va aller même dans les domaines d'emploi. Il y a encore une année, un monsieur venu m'a donné, il s'est bien pas tout. Après, il m'a pris $50. Mais jusqu'à nos jours, je ne suis même pas engagé. Mais tout ça. Mais comment on peut faire pour atteindre l'objectif de lutter contre la contrefaçon? C'est-à-dire, il faut installer un bon mécanisme au niveau de la population et au niveau du gouvernement. Et au niveau africain, c'est presque une bonne courante aussi. Vous voyez, au Centrafrique, les joueurs ont été payés en faux billets. Au niveau même de l'État, ça existe. Mais au niveau de la population, même si on va avoir telle chose, c'est très difficile de contrôler correctement, avoir les fichiers dans cette affaire. Ici, on a interdit, par exemple, la niquer en sachet. Mais vous verrez les soldats qui viennent vous vendre ça. C'est très difficile. D'abord, c'est la tête qui est d'abord pourrie. C'est la population, la c'est très difficile. On ne peut pas avoir du succès dans ce domaine. C'est
voilà, donc, voilà, si je comprends bien.
Mais pour finir,
oui, si je comprends
bien. Que nous avons aujourd'hui, hier.
Oui.
Oui, je devais terminer par ceci. Les maîtres que nous avons aujourd'hui, ce sont d'abord infiltrés que dans la politique, ils ont laissé leur réactivité majeure intervenir ou inciter ceux qui sont à la tête du pays pour la loi. Et même si vous organisez une émission pour la politique, vous allez voir que ce sont les maîtres qui font ça et les avocats. Mais dans d'autres domaines, ils sont oubliés de le travail. C'est pour cette raison. Et les parlementaires, voilà. Nous avons les lois qui nous votent. Mais pourquoi l'exécution manque?
Voilà, donc si je comprends bien, Israël, vous plaidez également pour le civisme monétaire. Aujourd'hui, il faudrait que tout le monde s'approprie de cette lutte pour dire que voilà, finalement, si nous voulons mettre à l'abri de toutes ces conséquences que nous avons évoquées tout au long, depuis le début de cette émission, les conséquences économiques, sociales et même qui touchent à la santé et à la sécurité des consommateurs, il faudrait bien que nous mettions tous la main à la pâte. Merci beaucoup. Ismaël, d'avoir appelé de Lubumbashi et d'avoir fait des propositions concrètes. Alain, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Vous avez la parole, Alain.
Oui, modestement, j'estime que c'est un problème qui demande beaucoup de moyens en termes d'institutions, en termes de financiers, pour que nous arrivions pratiquement à juguler cette situation. Si nous prenons le fonctionnement de notre économie, partant de nos importations comme de nos exportations, nous avons le CC qui est chargé de valider la qualité ou de certifier la qualité de produits. Mais il y a aussi Bivac qui intervient au niveau international. Partant de notre fonctionnement, vous trouvez que Bivac aide le CC au niveau extérieur, c'est-à-dire au niveau des importations, Bivac qui joue pratiquement le rôle de contrôleur. Et par la suite, il y a l'OCC au niveau interne. Mais malheureusement, il y a un dysfonctionnement qui caractérise le fonctionnement des systèmes. Et au-delà de ça, il y a aussi au niveau interne. Nous devons reconnaître que quelque part, les agents économiques se déconduisent et mettent en mal même la sûreté même de l'État. Parce que lorsqu'on nous vend des produits avariés, cela met en mal, met en difficulté les consommateurs. Au-delà de ça, il y a les sanctions, comme l'avait dit l'un des prédécesseurs, il n'y a pas assez de sanctions. Nous voyons, il y a des produits avariés qui entrent dans notre marché, qui sont vendus aux yeux aussi de tout le monde, même nous autres, la population. Nous apparaissons des complices et des complices naïfs parce que c'est notre santé qui est mise en mal. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de suivi, il n'y a pas assez de sanctions, ce qui fait que ces gens continuent à polluer notre environnement. Si nous prenons en termes de contrefaçon, surtout en ce qui concerne la monnaie, c'est un domaine qui est sensible. D'après certaines informations, nous avons appris qu'on a injecté de l'argent au niveau du marché, ce qui a occasionné la situation monétaire que nous avons connue. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore sanctionné quelqu'un. Et pourtant, à l'époque de Mobutu, on avait vu des gens qui étaient sanctionnés par le fait d'avoir utilisé ces mécanismes pour s'enrichir. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sentons pas l'efficacité de l'action. Tout simplement parce que l'administration apparaît de plus en plus faible.
Voilà, Alain.
Donc on doit renforcer l'administration et des sanctions pour que nous mettions fin à ce genre de pratiques.
Merci beaucoup, Alain. On va prendre Bertin, d'ailleurs, qui nous a rejoint également dans cette émission. Il est de l'association pour la normalisation. Bertin, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, vous avez suivi les uns les autres. Hein. Je crois que vous avez un mot à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout est lié aussi au problème de la normalisation, de la gestion de l'export et import, d'import et export dans notre pays?
Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est ma modeste contribution par rapport au débat. Il est très pertinent ce débat parce que vous savez que le Congo a ratifié les instruments d'adhésion dans la zone de libre-échange du commerçant. Si des mécanismes ne sont pas mis en place, on va continuer à souffrir de cette contrefaçon. Je dis que notre pays souffre de l'absence d'une pratique cohérente de la normalisation. Il y a contrefaçon quand les produits ne sont pas bien définis en amont. C'est pas l'activité normative qu'on donne les caractéristiques de produits. Et après, ce sont les organismes de contrôle qui interviennent. Je crois que c'est parfois à tort qu'on condamne l'OCC. L'OCC a comme instrument de travail la norme et la réglementation. Si ces deux outils ne sont pas mis à sa disposition, ça ne sera pas fait le travail de manière efficace. Souvent, on parle des produits qui viennent de l'Asie, qui sont contrefaits, tout ça. Est-ce que nous avons nos normes nationales qui définissent les produits tels qu'on doit les prendre? Ça, c'est par rapport aux produits importés. Et les produits locaux, est-ce qu'il y a des normes nationales? qui définissent les produits locaux. Ça, c'est un problème sérieux. Nous avons déjà au niveau du Sénat une proposition de loi qui a été adoptée. Les débats doivent bientôt avoir lieu à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est important que les autorités prennent la mesure de la chose et qu'ils aillent voilà, compris tout le pays d'une loi qui puisse régir les accès de l'information à la métrologie.
Voilà,
je pense que ça, l'absence de cette loi.
Merci beaucoup, on a plus assez de temps, Bertrand. Merci d'avoir appelé. Merci également à tous les auditeurs qui ont contribué dans cette émission. On termine cette émission par ces propos donc de Bertrand. Et on se permet de dire merci à Sylvain Matundou qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Belgique, qui était en même temps au standard de ce programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabong et supervisé par Martin Sebou Jangwe. On se retrouve demain dans un autre débat.